Bonjour à toutes et tous. Alors c'est un dimanche un peu particulier parce que c'est le troisième dimanche des vacances et donc il n'y a pas collégiens, il n'y a pas école du dimanche, donc on a les enfants avec nous, on a les collégiens avec nous et donc du coup on va avoir quelques petites activités pour vous, pour les collégiens, les, on va dire ceux qui savent lire au moins, et on va déjà deviner de quel texte on va parler, quel texte on va lire dans la Bible. Alors,
je me rends compte que je...
les faire passer du coup. J'ai un...
Deux secondes. Bien, on va commencer par un début qui s'affiche ici.
Est-ce que quelqu'un trouve la réponse pour savoir dans quel livre on va lire ce matin? Ah, j'ai entendu, ouais. Le prophète Ézéchiel, c'est ça, exactement. C'est mon Étienne, j'ai retrouvé. Le prophète Ézéchiel. Alors maintenant, un peu plus difficile, est-ce que, cette fois c'est un rébus en mode emoji. Donc les emojis, pour ceux qui ne savent pas, c'est sur les smartphones, c'est des petites images qu'on utilise beaucoup entre... Moi j'utilise moins que mes filles, par exemple. Mais pour savoir de quel passage on va parler... Ah, j'ai entendu. Chapitre combien ? Non, non. Il y en a 10 de... 37. Chapitre 37. Chapitre 37, effectivement. Et c'est qui nous parle de quoi, du coup ? Qui nous parle d'une vallée dans laquelle il y a plein d'os, plein d'ossements. Et donc, on va lire ce texte dans le chapitre 37. Mais avant ça, je me suis inspiré d'une super idée qu'a eu Daniel il y a quelques temps. Quand il y avait les collégiens qui étaient là, ils vous avaient fait un petit quiz, un petit questionnaire. Donc il y a un questionnaire avec 10 questions pour tous les enfants, ceux qui savent lire. Il faut savoir lire, alors il faut que les parents soient avec vous. On va vous donner les stylos, tous les enfants, les ados, et puis les adultes qui veulent, pourquoi pas. Dans le bol là-bas, il y a des petites barres chocolatées. Donc à la fin du culte, vous venez, et puis vous pourrez vous servir, vous montrer un petit peu comment vous avez pu répondre. Et puis voilà, en tout cas... Il y a 10 questions, il n'y a pas de piège, c'est simple, il faut juste un petit peu écouter, et puis voilà. Donc c'est pour les enfants et puis les grands enfants qui ont jusqu'à 80 ans passés. Hein. Alors je vous propose qu'on lise ensemble ce texte qui se situe donc dans l'Ancien Testament, le Premier Testament. On va le lire, donc soit on peut le lire à l'écran, vous pouvez aussi prendre vos Bibles ou les lire sur votre smartphone. Ézéchiel, chapitre 37, les versets 1 à 14, et on va lire dans la Bible, la Nouvelle Bible Seconde, donc une traduction, Nouvelle Bible Seconde. La main du Seigneur fut sur moi. Le Seigneur me fit sortir par un souffle et me déposa au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Ils étaient très nombreux dans la vallée et ils étaient très secs. Il me dit, « Humain, ces ossements pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit, parle en prophète sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur Dieu à ces ossements. Je fais venir en vous un souffle et vous vivrez. Je placerai sur vous des tendons. Je ferai pousser de la chair sur vous. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous un souffle. Vous vivrez. Et ainsi vous saurez que je suis le Seigneur. Je parlais en prophète selon ce qui m'avait été ordonné. Et comme je parlais en prophète, il y eut un bruit, il y eut un frémissement, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je constatais qu'il y avait sur eux des tendons. La chair se mit à pousser, et la peau les recouvrit par-dessus. Mais il n'y avait pas de souffle en eux. Il me dit, « Parle en prophète sur le souffle, parle en prophète humain. Tu diras au souffle, « Ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des quatre vents au souffle, souffle sur ces tués et qu'ils revivent. » Je parlais en prophète comme il me l'avait ordonné. Alors, le souffle vint en eux, ils reprirent vie et se tinrent debout sur leurs jambes. C'était une très grande armée, une armée immense. Il me dit, humain, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espoir s'est évanoui, nous sommes perdus. À cause de cela, parle en prophète, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, j'ouvre vos tombes, je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Ainsi, vous saurez que je suis le Seigneur, lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon souffle en vous, et vous reprendrez vie. Je vous ramènerai sur votre terre, et ainsi vous saurez que c'est moi, le Seigneur, qui ai parlé et agi. Déclaration du Seigneur. Alors, c'est un texte qui est étonnant, puissant, saisissant, un texte qui nous marque et généralement qu'on n'oublie pas une fois qu'on l'a lu. On a ces images qui se créent dans notre tête, d'eau qui se rassemble, un processus inversé par rapport au processus de décomposition naturelle. Et ce texte, c'est une vision qu'a eu le prophète Ézéchiel. On ne sait pas si, quand il a eu cette vision, il était éveillé ou s'il dormait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est Dieu qui parle à Ézéchiel à travers cette vision. Et c'est une image, il n'a pas vraiment vu, il n'a pas touché des os, mais il les a vus dans une vision. Et qu'est-ce qui nous marque dans ce texte? Ben, d'abord, c'est la scène qui est décrite. On nous parle d'eau qui se rassemble, qui reforme des squelettes qui reprennent vie. Des personnes qui se tiennent debout, c'est une scène assez hallucinante, qu'on imaginerait peut-être plutôt dans un manga, dans un animé japonais, ou dans un film à grand spectacle, comme les derniers films Marvel. Et puis il y a aussi la manière dont Ézéchiel parle. En fait, Ézéchiel nous embarque avec lui. C'est comme s'il avait mis une caméra, les caméras que les skieurs, etc., ils mettent des caméras sur leur casque ou sur leur poitrine. Il nous emmène avec lui, et on est à côté d'Ézéchiel quand il voit, quand il entend le bruit, quand il sent le vent qui arrive et qui donne ce souffle. On voit les corps qui reprennent vie en deux étapes. D'abord les corps qui se reforment et ensuite la vie qui est insufflée. Donc une vision assez extraordinaire par son contenu, par la façon dont Ézéchiel l'écrit et la décrit. Mais quel est le sens de cette vision? Qu'est-ce que Dieu veut faire comprendre à Ézéchiel? Quel est le message que Dieu veut faire passer? Alors pour pouvoir répondre, et pour avancer un peu dans notre méditation, il faut faire quelques rappels historiques. Ézéchiel est né à Jérusalem, à une époque où les rois qui descendaient de David, on est quelques dizaines, centaines d'années après David, les rois se sont éloignés de Dieu, tout le peuple s'est éloigné de Dieu. Et quand Ézéchiel a eu 25 ans, en 597, avant notre ère, avant la naissance de Jésus, il y a une grande catastrophe qui est arrivée. Il y a le roi du plus grand empire de la région, c'était l'empire de Babylone, est venu assiéger Jérusalem avec toute son armée. Il y a eu une bataille et le roi de Babylone a gagné. Et ce que le roi a décidé de faire, c'est de faire prisonnier des dizaines de milliers de juifs, d'israélites qui vivaient à Jérusalem, et pas de les mettre dans des prisons à proximité, mais de les emporter, de les faire voyager, on va voir sur la carte, hein, c'est un voyage assez long, de les faire voyager jusque dans la ville de Babylone, ou en tout cas dans les régions autour de la ville de Babylone. C'est ce qu'on appelle l'exil. Le roi de Babylone a décidé d'exiler toute une partie de la population de Jérusalem. Et parmi ces exilés, il y avait Ézéchiel, ce jeune homme de 25 ans. Il y en avait d'autres, il y a eu Daniel un petit peu plus tôt, il y a d'autres prophètes qui ont vécu cette catastrophe. Et cet exil, ce n'est pas le fruit du hasard. La Bible et beaucoup de livres dans l'Ancien Testament nous parlent de cet épisode comme étant la conséquence des mauvais choix du peuple. Le peuple qui s'est détourné de Dieu, qui a adoré des idoles, qui n'a pas écouté les messages des prophètes. En tout cas, c'est dans ce contexte-là que Dieu parle à Ézéchiel. Une fois qu'Ézéchiel arrive à Babylone, et pendant plusieurs années, Dieu va parler à Ézéchiel, notamment par cette vision. Donc c'est un contexte difficile. Mais la clé pour comprendre cette vision, en fait, elle nous est donnée dans le texte lui-même, au verset 11, et c'est Dieu qui donne cette explication. Il dit à Ézéchiel, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, nos ossements sont desséchés. Notre espoir s'est évanoui. Nous sommes perdus. Les ossements représentent le peuple d'Israël. C'est une image, une représentation qui montre à quel point les Juifs se sentent morts, se sentent tristes, se sentent désespérés. Ils disent que leur espoir n'existe plus, il n'y a plus d'espérance. Ils disent « nous sommes perdus ». Ce dernier verbe, on peut le traduire littéralement par « couper ». Nous sommes coupés de nos racines. Nous sommes loin de la terre que Dieu nous a promise, que Dieu nous a donnée. Devant nous, il n'y a aucun espoir. C'est le noir complet. Aucune lumière. Aucune solution à l'horizon. Un drame complet et absolu. Mais avec cette vision des ossements qui reprennent vie, Dieu dit un grand non. Non, l'espoir n'est pas mort. Non, vous n'êtes pas perdus. Car moi, votre Dieu, je vais rétablir le peuple. Comme ces ossements ont repris vie dans cette vision d'Ézéchiel, le peuple aussi va reprendre vie. La situation de désespoir, elle n'est pas définitive. Ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que Dieu intervient. Cette vision du chapitre 37 d'Ézéchiel nous dit que Dieu peut faire renaître ce qu'il peut y avoir de plus mort, ce qu'il semble y avoir de plus mort. Et je pense qu'à nos yeux, il y a des situations qui peuvent nous paraître désespérées, sans issue. Ça m'a fait penser à un documentaire qu'on a regardé vendredi soir avec Sylviane et Timothée sur les arbres et le fonctionnement des arbres. Il y avait un scientifique qui expliquait les effets du réchauffement climatique et de la sécheresse. Et en fait, dans le tronc des arbres, je l'avais déjà lu, mais là c'était super bien expliqué, il y a comme des mini tuyaux qui partent directement des racines et qui montent jusque dans les branches. Et ces tuyaux-là, il y a de l'eau de manière continue. Un peu comme une colonne d'eau. Et l'évaporation, en temps normal, qu'il y a dans les feuilles, crée une aspiration. Et donc, il y a tout le temps des dizaines de litres d'eau qui montent dans les arbres. Mais en cas de sécheresse, en fait, il y a des bulles d'air qui vont s'intercaler dans ces petits tuyaux. Et c'est des bulles d'air qui vont empêcher l'eau de monter. Et c'est définitif. Quand une bulle d'air arrive dans un tuyau, ce tuyau, il est mort. Et le terme qui est utilisé par les spécialistes des arbres, c'est celui qu'on utilise aussi en médecine pour le corps humain, c'est une embolie. Et en fait, les scientifiques expliquaient qu'à partir d'un certain pourcentage de canaux bouchés, l'arbre était déjà mort. En fait, c'était un processus irréversible. Il était certain que l'arbre allait dépérir et mourir, sans possibilité de retour en arrière. Et le peuple en exil est un peu comme un arbre qui aurait perdu tout espoir de revivre. Le peuple est mort et rien ne permettra de le faire revivre. Mais la vision d'Ézéchiel, elle nous raconte une autre histoire. Elle nous montre que Dieu inverse le cours des choses. Elle nous montre que ce qui nous semble impossible à nous, n'est pas impossible à Dieu. Oui, Dieu est capable de faire renaître ce qui semble y avoir de plus mort. Ce qui semble y avoir de plus mort pour un peuple, mais aussi ce qui semble y avoir de plus mort dans nos vies. Est-ce que dans ma vie ou dans ta vie, il y a des zones où tout espoir semble avoir disparu, des domaines où on se sent perdu, comme le peuple en exil, où tout semble mort? Ça peut concerner une relation brisée depuis de longues années, de l'incompréhension, du ressentiment, avec un membre de la famille, avec un collègue, une collègue, avec peut-être un frère, une sœur, dans la foi, dont on s'est éloigné. Est-ce que c'est un domaine de ma relation à Dieu? Par exemple, ma vie de prière qui semble morte, comme si des bulles d'air s'étaient accumulées, il y avait eu des embolies dans les canaux de ma vie, et ça m'empêche d'avoir une vie de prière profonde et régulière. Est-ce que c'est mon horizon professionnel, mon travail qui est sans espoir, bouché, parce que ça ne correspond pas à mes attentes, parce que je ne trouve plus de motivation, parce que ma hiérarchie me fait vivre des choses difficiles? Je pense qu'on pourrait prendre plusieurs aspects de notre vie, se poser ces questions-là, et peut-être faire le constat que, comme le peuple d'Israël, on peut dire, dans ce domaine-là, mon espoir est évanoui, ce péché dans lequel je retombe, telle relation. Et ce matin, la vision d'Ézéchiel est là pour nous donner à tous un puissant encouragement. Oui, Dieu est capable de faire renaître ce qu'il nous semble y avoir de plus mort. Et il le fait par grâce. Les ossements, ils n'ont rien fait pour revivre. C'est Dieu qui l'a décidé. Ce texte nous rappelle qu'il n'y a pas de situation dans laquelle Dieu ne peut pas intervenir. On peut se tourner vers Dieu avec confiance et le prier. Seigneur, vois ce qui est mort dans ma vie. Je veux croire que tu rendras la vie, toi qui es la vie et la résurrection. Amen. Mais la vision d'Ézéchiel, elle va plus loin que ça. On pourrait se dire, là, vous pensez peut-être que vous avez terminé, en fait. La vision d'Ézéchiel, elle va plus loin que ça. Elle va plus loin qu'affirmer que Dieu peut redonner la vie à ce qui peut sembler mort. On pourrait dire, mais attends, c'est déjà extraordinaire. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus, en fait, que redonner la vie à quelque chose qui semble mort? Et bien, en fait, on voit qu'ici, Dieu ne veut pas se contenter de redonner la vie comme avant. Ici, Dieu veut créer quelque chose de nouveau, de radicalement nouveau. Plus qu'une résurrection, ici, Dieu veut opérer une nouvelle création, une recréation. Vous avez peut-être remarqué que la résurrection, elle se fait en deux temps. D'abord, il y a les corps qui sont reconstitués, mais qui restent inertes. Donc, dans la vision, on peut imaginer des milliers de corps comme ça, couchés dans la plaine. Et seulement après, il y a un souffle qui leur est donné et ils se lèvent. Et les poumons commencent à fonctionner et les gens se lèvent. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est l'action de Dieu qui n'a pas été assez forte? Je pense que pour comprendre cette résurrection en deux temps, il faut qu'on pense à un autre texte. Alors là, c'est une question un petit peu peut-être plus difficile que pour les enfants et les collégiens. Est-ce que vous connaissez un autre texte dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, dans lequel il y a un corps qui est formé dans un premier temps et ensuite un souffle qui lui est donné? Oui? Quelques idées? Adam, ouais. La création de l'être humain en Genèse 2. Genèse 2, chapitre 7. Le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et tous les commentateurs de ce passage d'Ézéchiel s'accordent pour dire qu'il y a clairement un lien entre cette création de l'homme et cette vision des ossements. Non seulement Dieu veut redonner la vie à son peuple, mais il veut le faire d'une manière radicale, d'une manière qui s'apparente à une nouvelle création, un nouveau départ. Et comment est-ce que cette nouvelle création, elle intervient. Il y a un mot qui revient tout au long du texte. Dans la traduction que je vous ai proposée, c'est le mot « souffle ». Mais peut-être que vous, si vous l'avez lu dans votre Bible, vous aviez à la place le mot « esprit ». Et parfois on a le mot « souffle », parfois on a le mot « esprit », même d'un verset à l'autre, on va mettre « souffle »,« esprit »,« esprit »,« souffle ». Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en hébreu, c'est le même mot pour les deux termes. C'est le mot « ruach ». « Ruach », ça veut dire le souffle, le vent, mais ça veut aussi dire l'esprit. Et en fait, Ézéchiel, il joue sur ces deux sens du mot « ruach » en hébreu. Et c'est vrai qu'au début, on ne comprend pas très bien comment... quel est ce souffle qui transporte Ézéchiel dans cette vallée. Et en fait, la réponse nous est donnée dans le tout dernier verset de notre passage, le verset 14, où Dieu parle et dit « Je mettrai mon souffle en vous, et vous reprendrez vie. Je mettrai mon souffle en vous, mon esprit. » Il y aura bien une résurrection du peuple. On sait que l'exil a pris fin, que le peuple d'Israël est rentré à Jérusalem, est rentré en Israël, et ça, la Bible nous le raconte, notamment dans les livres d'Esdras et de Néhémie, et cette vision, elle annonce ce retour, mais elle annonce quelque chose d'autre encore. Une résurrection spirituelle, un nouveau commencement par l'Esprit de Dieu lui-même. Dieu va opérer une transplantation de son esprit. Avec l'exil, Dieu prend acte de la difficulté que les humains, que nous avons, à vivre d'une manière juste et bonne. Le cœur du problème, c'est justement le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tordu, il a besoin de Dieu. Mais avec ce cœur tordu, Dieu veut faire quelque chose. Il propose de transplanter son cœur dans le cœur de l'homme, d'implanter dans l'homme son esprit, pour que l'on puisse vivre avec une mentalité renouvelée. Et cette promesse de nouvelle création, de don de l'esprit, elle est accomplie de manière parfaite et ultime avec la venue sur terre, avec la mort et avec la résurrection de Jésus-Christ. Jésus lui-même en parle, et là aussi, on pense que quand Jésus prononce ces paroles qu'on va lire dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 25, il y a une allusion directe à la vision d'Ézéchiel. Jean, chapitre 5, verset 25, « Oui, vraiment, je vous l'assure, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et tous ceux qui l'auront entendu vivront. » Le Fils de Dieu, c'est Jésus, il parle de lui ici. Hein. Les personnes qui sont spirituellement mortes et qui s'approchent de Jésus, qui l'écoutent, qui placent leur confiance, leur foi en lui, qui décident de le suivre, ces personnes-là reçoivent une vie nouvelle. Ces personnes-là sont créées à nouveau, comme les corps qu'Ézéchiel voit à la fin de sa vision, ces corps pleins de vie, restaurés, renouvelés. Et cette vie nouvelle que Dieu veut offrir et que nous pouvons avoir avec certitude en Jésus-Christ, c'est une vie qui surpasse l'ancienne, parce que c'est une vie qui n'aboutira pas sur une mort. C'est une vie éternelle. Alors, oui, on traverse toujours des vallées sombres, mais ce ne sont plus des vallées comparables à cette vallée des ossements, où s'élève le cri « Notre espoir est évanoui, nous sommes perdus. » Les vallées, les déserts que l'on traverse, ça peut être des déserts que Dieu permet pour nous faire prendre conscience en pratique de notre besoin de lui. Parce que nous comptons parfois trop souvent sur nous-mêmes. Parfois, on peut aussi avoir du mal à croire que Dieu a fait une œuvre radicalement nouvelle en nous. Est-ce que j'ai vraiment été pleinement recréé par l'Esprit de Dieu si je continue à avoir ce péché avec lequel je me débats, si je continue à chuter, à retomber dans les mêmes travers? Et c'est là où la foi doit prendre le relais. Oui, Dieu a créé quelque chose de radicalement nouveau en chacun de ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Si c'est le cas, alors je marche vers la résurrection, à la suite de Christ, avec Dieu aux commandes. C'est là le message de la vallée des ossements. La vie que Dieu donne surpasse tout. Amen. Je vous invite à prier. Père, lorsque je me suis tourné vers toi, tu m'as donné une vie nouvelle. À présent, c'est la vie de résurrection, la présence de Christ qui habite en moi. Parfois, pourtant, j'ai l'impression que rien n'a changé et je lutte par mes propres forces. Mais tu m'as promis la puissance de ton Saint-Esprit. Aide-moi à vivre de cette promesse. En Christ, j'ai laissé mon ancienne vie et mon autosuffisance derrière moi. Lorsque tu me sollicites, tu me donnes aussi les moyens de t'obéir. Tu ne me laisses pas me débrouiller seul. Je veux connaître la puissance de la résurrection aujourd'hui, dans mes tentations, dans mes comportements, dans mes choix, dans mes relations. Développe en moi les fruits de ton Saint-Esprit, les marques de la vie éternelle. Et donne-moi de témoigner de ton amour avec clarté et conviction à l'image des apôtres de Jésus. Amen.